Chapitre 4. L'hôpital du Kremlin-Bicêtre n'était pas le plus proche de Massy-Palaiseau, mais il faisait partie des 6 établissements de l'APHP qui assuraient la grande garde de neurochirurgie. Étant donné l'absence de plaies corporelles et la présence de sang sur le cuir chevelu, le médecin du SAMU qui les avait rejoints avait émis l'hypothèse d'un choc très violent, capable de provoquer un trauma crânien ou une hémorragie cérébrale. En revanche, il avait préféré s'abstenir de formuler le moindre diagnostic concernant le bébé. Durant le trajet jusqu'aux urgences, Audra n'avait en tout cas pas repris connaissance, ce qui était alarmant. Une fois là-bas, elle avait été étendue sur un brancard, aussitôt engloutie par l'un de ces interminables couloirs trop blancs et trop rectilignes. Il était 3 heures du matin. Lucie et Nicolas le savaient. Ils s'apprêtaient à vivre de très longues heures d'angoisse. Dès qu'il le put, Charcot vint aux nouvelles. Robillard et lui avaient dû rester sur place près des rails le temps qu'un autre groupe de la crime débarque. Il y avait eu mort d'homme dans le cadre d'une opération qui avait mal tourné, ce qui impliquait une enquête dans l'enquête. L'IGPN allait être saisi pour déterminer les circonstances exactes du décès de Fermont et, si besoin, prendre les mesures qui s'imposeraient. Lucie s'isola lorsque son téléphone vibra. Elle relata ce qu'elle savait à Franck, c'est-à-dire pas grand-chose. Audra avait été emmenée au bloc de neurochirurgie après avoir passé un scanner. L'équipe de gynécologie et l'obstétricien de garde avaient été sollicités au cas où l'intervention aurait nécessité une extraction d'urgence du fœtus, qui serait fatale au petit être.
Il faut tout faire pour qu'il s'en sorte, elle et le bébé.
C'était la seule phrase que Charcot avait réussi à prononcer. Puis il avait raccroché. La lieutenant de police se massa les paupières, histoire de chasser les images infernales qui s'y dessinaient. C'était le genre de moment que tous les flics redoutaient, et il se déroulait là, maintenant, au sein de leur groupe si soudé. Audra était devenue une amie, une présence féminine qui faisait du bien au milieu de toute cette testostérone. Quant à Nicolas, il était comme un frère pour Lucie. Il l'avait accueillie, formée lors de ses premiers jours au 36, elle, la petite bleue débarquée du Nord. Depuis, il avait eu son lot de souffrances, assez pour plusieurs vies. Le destin ne pouvait pas s'acharner ainsi, pas encore. Elle le rejoignit d'un pas traînant. Il avait enfin trouvé le courage de prévenir par téléphone les parents d'Audra. La lumière crue des néons ciselait son visage en arêtes tranchantes, tel un Picasso torturé. J'aurais jamais dû l'écouter et la laisser m'accompagner, jamais. Nicolas s'effondra sur une chaise, son masque chirurgical baissé sous le menton, les doigts sur les ailes de son nez. Lucie s'assit à ses côtés. Elle ne tenait pas en place derrière un bureau, tu le sais très bien. Elle a insisté. Ce n'est pas ta faute, ni celle de personne. Ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Mais ça lui est arrivé à elle. Lucie se tut, car les mots ne suffiraient pas à atténuer sa peine. Parce qu'en vérité, il n'y avait plus une journée où chacun d'entre eux partait bosser sans se dire qu'il pourrait ne pas rentrer. Les risques du métier, comme on dit. Elle ne savait pas exactement quand les choses avaient changé, mais elles avaient changé. La violence sourde qui imprégnait leur quotidien remontait peut-être aux attentats de 2015-2016 ou à l'épisode des Gilets jaunes. Nicolas buvait café sur café à la machine. Il avait cru vivre le pire jour de sa vie quand Camille, sa compagne, avait été assassinée des années plus tôt. Des monstres la lui avaient arrachée et avaient mis sa mort en scène de la façon la plus abominable qui soit. Mais il y a toujours pire que le pire. Le jour pointait déjà par la fenêtre, un soleil blanc et froid, lorsque enfin un homme en tenue bleue vint à leur rencontre. Nicolas haïssait ces masques qui empêchaient de lire les expressions des visages. Le premier détail qu'il remarqua fut le filet de sang, sorte de queue de comète, sur le bas de sa blouse. Le neurochirurgien avait juste desserré sa calotte, dévoilant de courts cheveux blonds. Ses traits étaient tirés, ses yeux rougis de fatigue. On devinait encore autour la trace des optiques de précision qui lui avaient servi à opérer.
Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible la situation, lâcha le spécialiste d'une voix étouffée par le polypropylène de son masque. Une équipe a immédiatement pris en charge Madame Speak à son arrivée aux urgences et l'a emmenée passer un scanner. Il a révélé une très importante hémorragie intracérébrale causée par un choc violent, c'est-à-dire une fuite de sang à l'intérieur même du cerveau. Le problème dans ce cas de figure, c'est que l'accumulation de sang comprime la matière cérébrale. Il parlait sans émotion particulière, relatait juste des faits et gardait cette distance froide qu'imposait son métier. Dehors, les sirènes hurlèrent de nouveau. Les hôpitaux étaient ainsi submergés d'arrivées et trop souvent s'en sortis à la fin. Il fallait ouvrir. On a fait une fenêtre dans le crâne pour évacuer le sang. Il y en avait beaucoup, la pression intracrânienne était très forte.
Dites-nous que vous avez pu la sauver, docteur.
On a fait le nécessaire pour arrêter l'hémorragie, mais une partie du cerveau et du cervelet avait déjà subi des dommages encore difficiles à estimer. Et désormais nous sommes face à une autre complication. Un œdème intracérébral s'est formé. Il gonfle rapidement. Trop. Il avait pris du temps pour prononcer ce dernier mot. Trop. Quatre lettres qui changeaient tout. Lucie sentait que Nicolas était sur le point de flancher. Il était livide.
« Vous allez devoir réopérer ?» demanda-t-elle. « C'est ça que vous êtes en train de nous dire ?»
Malheureusement, c'est inopérable. L'œdème n'est pas aussi localisé qu'une hémorragie. Il est généré par une accumulation d'eau à l'intérieur des cellules du cerveau, ce qui entraîne une augmentation du volume cérébral partout à la fois dans un os qui, vous le savez, n'est pas extensible. On a administré des substances à Madame Speak dans le but de diminuer la pression intracrânienne, mais il n'y a pour le moment aucune amélioration. L'œdème continue à se développer malgré tout. On a peut-être affaire à ce qu'on appelle une hypertension intracrânienne réfractaire. Nicolas eut à cet instant une pensée incongrue. Il se dit que le médecin était trop jeune pour savoir ce qu'il racontait, que personne ne devenait neurochirurgien sans avoir une couronne de cheveux gris ou de rides profondes sur le visage. C'était un cauchemar.
« Le bébé ?»
balbutia-t-il. « Je préfère laisser s'exprimer l'obstétricien qui va se charger des examens, mais le fœtus est en vie. Son cœur bat régulièrement. Le placenta est intact et bien en place. » Lucie glissa sa main dans le dos de son collègue en lui adressant un pâle sourire. C'était un infime coin de ciel bleu au cœur d'un orage. « Je ne veux pas vous donner de fausses joies, ce ne serait pas honnête. » précisa le spécialiste en fixant Lucie. C'est honnêtement mal engagé. Les 48 prochaines heures vont être décisives. Madame Speak est maintenant en réa neurochirurgicale, plongée dans un coma artificiel pour solliciter le moins possible son cerveau. Un médecin réanimateur et son équipe ont pris le relais et s'occupent d'elle. Ses fonctions vitales vont être en surveillance constante et, croyez-moi, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour la sauver, ainsi que votre bébé.
« On peut la voir ?»
osa Lucie. Le chirurgien entrebâilla la porte battante derrière lui, déjà prêt à repartir. « Non, désolé, il est trop tôt pour ça. Écoutez, 48 heures, c'est long. Vous devriez rentrer chez vous, vous reposer. S'il se passait quoi que ce soit, vous en seriez immédiatement informé. » Nicolas secoua la tête. « Hors de question, je reste. » Le spécialiste montra sa compréhension d'un mouvement de menton, leur adressa un dernier regard empreint d'un soupçon de compassion cette fois, et disparut. Malgré la présence de Lucie, Nicolas se sentait au bord de l'abîme, sur le point de basculer. Il aurait aimé parler encore, en savoir davantage sur ce qui s'était passé, sur ce qui les attendait. Trop d'inconnus demeuraient. Il retourna s'asseoir sur sa chaise.
« Je ne veux pas qu'il meure. S'il existe un putain de bon Dieu sur cette terre, pitié, faites qu'ils s'en sortent, tous les deux !»